BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigauderie.
16h03, on est déjà un petit peu en retard, mais enfin, c'était quand même diablement intéressant. Notamment cette rubrique Culture Bourse de Gwendal que vous pouvez retrouver en podcast, en replay, hein, toujours très intéressant moment de pédagogie financière dans BFM Bourse. Soyez bienvenus hein, pour cette nouvelle heure d'émission jusqu'à 18h. On est en connexion directe avec les marchés. Qu'est-ce qui se passe du côté des indices actions? Le CAC 40 qui repart à la baisse. On a l'impression d'orbiter toujours un tout petit peu au-dessus des 8100 points. On est à 8155 points avec un petit peu de yo-yo hein, toute cette semaine. Mais globalement, des marchés qui se tiennent. -0,2% pour l'Euronext Tech Leaders qui surperforme légèrement. Mais alors Wall Street qui prend une teinte rouge. -0,1% pour le Nasdaq, le Dow Jones, -0,3%, le S&P 500, -0,03%. Un petit coup d'œil sur les principales performances du jour hein, du côté de Wall Street. On a une hausse absolument spectaculaire du côté de Snowflake dans la sécurité, dans le cloud. Le titre prend 37%. Après l'annonce de ses résultats et de ses prévisions. C'était pas la même limonade du côté de Salesforce, hein, le fabricant de logiciels pro qui passe son temps à décevoir. Les résultats n'étaient pas très très bons. Le titre a commencé en baisse marquée puis se redresse là, plus 2,5%. Il y avait peut-être une chasse aux bonnes affaires qui se profilait. En revanche, Synopsys, toujours dans les logiciels de conception de puces IA, il y a des prises de bénéfices. Hein, le titre recule de 5,7%. Donc vous voyez, il y a tout. Il y a aussi Soitec à Paris qui grimpe de 18%. On est sur un gain de 666% depuis le 1er janvier. Ça commence à devenir totalement dingue. ST Microelectronics gagne 165% depuis le 1er janvier. C'est la plus forte hausse. Non, c'est plus la plus forte hausse du CAC 40 là. On est à plus 0,3%. 58,14€. Mais enfin, ça reste quand même pas mal. Les puces, les semi-conducteurs, on va beaucoup, beaucoup en parler dans cette émission. C'est d'ailleurs l'objet de notre question du jour. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai que du côté de la surpuissance américaine et chinoise, qui se partagent vraiment l'essentiel du marché. Qu'est-ce que l'Europe a à dire dessus? Ben, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et vous allez répondre à notre question, on vous la posera tout à l'heure. Je suis impatient de savoir un petit peu quel est votre avis là-dessus. Ça se calme un petit peu du côté des taux et du pétrole. C'est vrai qu'on a consolidé pas mal depuis une dizaine de jours. Du côté des taux, on semble avoir quand même pris pas mal en compte des perspectives d'action des banques centrales pour cette année et être au moins arrivé à des niveaux de stabilité. Il n'y a plus trop de volatilité et ça, c'est important. Et c'est un peu la même chose du côté du pétrole, même si le Brent est toujours cher, hein, $94.39 à l'instant. Enfin, alors là, on sort du pétrole, on sort de la géopolitique, on sort de l'IA, on va parler poulet. Salade, LDC quand même, excellent résultat. Vous vous rendez compte, au milieu d'un contexte géopolitique qui est totalement fou, d'un contexte d'inflation qui reste quand même particulièrement inquiétant, et notamment sur les produits alimentaires, ben LDC s'en tire très bien, arrive à faire passer beaucoup de ces hausses de prix à ses tarifs finaux. Et c'est une entreprise qui se porte bien, qui a publié de très bons résultats. Et on en parlera d'ailleurs dans la famille avec Sabrina Sadi dans quelques instants. Pour l'instant, on va parler du reste de l'actualité du jour. Il y a pas mal de choses. Après une année record en 2025, le fret aérien fait mieux encore cette année. Sur les 4 premiers mois, le volume transporté est en hausse de 3,6% selon les données de l'Association du transport aérien international, et ce, malgré la situation au Moyen-Orient. Mais oui, logiquement, le trafic fret aérien bénéficie des problèmes qu'il peut y avoir dans le détroit d'Ormuz, et ça se sent hein, sur ces chiffres de progression. La Cour des comptes étrille la nationalisation d'EDF dessinée par Emmanuel Macron. Elle juge que la prise de contrôle à 100% de l'entreprise en 2022 pour 9,7 milliards d'euros quand même était coûteuse et sa nécessité n'est pas démontrée. Bruxelles inflige à Temu une amende de 200 millions d'euros. La commission estime que la plateforme de commerce en ligne chinoise n'a pas respecté ses obligations pour limiter la vente de produits illégaux. Allez, on passe à la tendance des marchés tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Thomas Lodowski, Dodo BHF, merci d'être resté avec nous pour commenter les actualités du jour. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de semi-conducteurs il y a quelques minutes, et pour un peu parler de cette granularité des marchés justement, hein, ST Micro, Soitec, ASML, c'est pas pareil. Chacun a ses problématiques de croissance, ses dynamiques. Soitec, ça commence quand même à ressembler à une histoire totalement folle. Le titre gagne encore 18,5% après la publication de ses résultats et de ses perspectives. Il avait quand même encaissé deux baisses de suite sur les deux derniers jours, avec l'anticipation que ma foi, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ben non, ils arrivent à en ajouter au compteur et ça pousse la hausse annuelle à 666% depuis le 1er janvier. Soitec, c'est la machine qu'il faut avoir en portefeuille maintenant ou est-ce qu'il faut quand même faire preuve d'un petit peu de discernement, peut-être de mesure sur une hausse qui reste spectaculaire, hein, on est d'accord, mais bon, qui est peut-être pas forcément le meilleur des arguments en bourse.
Alors, nous, sur Soitec, dans notre notation, on est neutre, hein, donc on est soit sur performance, soit neutre, soit sous performance. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi. Bon, juste avant, il faut quand même regarder, ça dépend, la performance, ça dépend à partir de quand on la prend, parce que si on la prend à partir de l'an dernier, ou même plus, c'est un titre qui a quand même dérété pendant quasiment 2 ans.
On est d'accord.
Donc, c'est toujours, on n'achète jamais au plus bas, on vend jamais au plus haut. Donc, par contre, on reste prudent, pas négatif, hein, mais relativement prudent sur Soitec, pour différentes raisons. Alors, la première, c'est pas les résultats en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même en très forte baisse, mais c'était conforme aux attentes. Mais donc le chiffre d'affaires, il a baissé de 30% en organique, c'était exactement ce qu'attendait le consensus.
D'accord.
L'EBITDA a été divisé par 2. Donc on était à 151 millions d'euros, le consensus était à 154 contre et donc un an avant c'était presque 300 millions d'euros. Et pour la première fois de son histoire, on a un résultat net déficitaire, alors 220 millions d'euros, mais en fait après retraitement d'exceptionnel, c'est une perte que de 14 millions d'euros. Donc ça s'explique c'est classique dans le secteur des semi-conducteurs, des sujets sur les stocks, donc avec une correction des stocks, Soitec s'est exposé au smartphone et à l'automobile et une sous-utilisation des usines. Donc, ce qui est resté positif, c'est le cash, qui est meilleur que prévu, et un bilan qui reste solide avec un levier très faible. On va me dire pourquoi, avec des résultats si faibles, ça monte autant. C'est le sujet, le magic word. Dans le secteur des semis, il y en a plusieurs. Et pour Soitec, c'est la photonique. C'est-à-dire tous ces besoins liés à la photonique.
La fameuse photonique.
Où ils sont très promotionnés, effectivement. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir plus de 100 millions de dollars de revenus annuels sur ce segment-là, en plus du reste. Bon, sauf que on a sur Soitec un sujet de difficulté à venir pour monter en production et des investissements quand même élevés, puisqu'ils attendent 100 millions d'euros de capex annuel. Donc il y a autant de capex que de revenus. Donc c'est à court terme.
Ouais, voilà.
Pour monter les chaînes de production. Et pour l'instant, sur l'évolution des marges, c'était ce matin en tout cas des commentaires seulement qualitatifs du management. Il y a eu entre-temps une conf-call, mais sur les marges, on n'a pas vraiment de chiffres. En côté positif, évidemment, les usines qui étaient à 50% d'utilisation, si elles remontent à 70% en normatif, ça va être meilleur. Mais par contre, il y a des effets changes et il y aurait un certain nombre de programmes de subventions qui s'arrêtent en 2026. Donc, ils vont quand même peser aussi sur les marges. C'est des revenus en moins. Donc, le consensus pour nous a des attentes extrêmement élevées. La valorisation, c'est une VE sur EBITDA de 37 fois sur 2027. Ça nous paraît sur une société qui peut, à un moment, commettre une erreur, pas tenir à 100% son plan de route. Être maintenant, il y a peut-être que dans l'opportunité rendement, il y a d'autres choses pour continuer à rester exposé. Par contre, au secteur des semi-conducteurs.
Ouais.
Donc voilà. Après, il peut y avoir un peu de trading, mais là, ça sort un petit peu de mon périmètre.
On n'est pas Wall Street, on pourrait dire. Faut arrêter.
Il
faut tout pour faire un marché, mais Soitec, c'est vrai que au milieu de ça, c'est un vrai outil industriel, un vrai savoir-faire, et c'est européen. Tiens, d'ailleurs, ça nous amène à la question du jour. La question du jour, elle m'a été fournie en fait par un utilisateur de Twitter qui se pose cette question. Il s'appelle Kaito X Creator, et qui dit: les États-Unis ont ChatGPT, Grok, Claude, Gemini, Llama, Copilot. La Chine a DeepSeek, Qwen, Ernie, GLM, Kimi, Minimax. L'Europe a quoi ? Dit-il avec cette espèce d'arrogance. On pourrait lui répondre, Mistral AI, c'est pas n'importe quoi non plus. On pourrait lui répondre, et je me suis permis de le faire sur Twitter, juste ASML, sans quoi aucun de ces trucs ne fonctionnerait. Mais la question, elle est bonne. C'est que, quelle valeur, qu'est-ce qui reste en Europe ? qui peut justement attirer l'attention et sur lequel vous croyez, vous, auditeurs, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. C'est la question qu'on vous pose hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn. C'est la question qu'on se pose et à laquelle on répondra, bien entendu, pendant le conseil de famille. Est-ce que vous êtes plus confiant sur ASML ? Est-ce que vous êtes plutôt confiant sur Soitec, qui cartonne aujourd'hui, sur STMicroelectronics ? Ou finalement, est-ce qu'il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer ? Voilà. Vous avez, allez, une petite demi-heure pour répondre à cette question. On y répondra avec Sabrina Salgui tout à l'heure dans le conseil de famille. On continue. Thomas Zlowski, je voulais quand même regarder avec vous les valeurs de la défense. On a parlé pas mal des valeurs allemandes avec vous tout à l'heure et vous pouvez retrouver ça en replay, en podcast dans la Bourse Cash, les opportunités sur les secteurs actifs du côté de l'Allemagne. La défense se défend bien, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, Thalès est plus forte hausse du CAC 40 à plus de 57%. On a Airbus plus 2,3%, 177,60€. On a l'impression quand même que malgré ça, le secteur n'arrive pas à profiter des perspectives de dépenses d'investissement européennes en termes de défense, tout simplement. On a l'impression que le storytelling n'arrive pas à infuser sur les marchés. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Votre sentiment, c'est quoi ?
Eh bien, c'est un bon exemple, le secteur de la défense, de ce que j'appelle des mouvements de rotation sectorielle et un peu de hype de marché. C'est-à-dire qu'on a eu, l'an dernier, bon, l'Allemagne a déclenché ça, mais il y a eu évidemment la guerre en Ukraine, puis après les revirements géopolitiques de Donald Trump, etc., etc., le sommet de l'OTAN en juillet dernier, un emballement sur les valeurs de défense, des changements ESG qui ont permis davantage de fonds d'investir dessus, une inflation des multiples, et tout ça a conduit le secteur à, en 2025, à atteindre des sommets à l'été. Puis après, ça a patiné et paradoxalement, depuis le début de l'année, alors même qu'il y a eu l'invasion en Iran, les valeurs européennes de défense ont pris la direction du toboggan vers la baisse. En termes de de-rating, on a dératé de 15% depuis le début de l'année, avec des multiples qui commençaient à être un petit peu excessifs. Mais effectivement, c'était plus j'achète au son du canon ou vendre au son du clairon, etc. Ouais. Ou l'inverse. Et ça devient plus compliqué. Alors, il est vrai que quand on regarde devant nous, on a, si je peux parler techniquement et boursièrement, hein, pas humainement, mais plutôt de l'optionnalité négative. C'est-à-dire que le conflit en Iran, il va plutôt vers une pente descendante, stable ou descendante, on en est sur des escarmouches maintenant, enfin, ça c'est le premier sujet. La guerre en Ukraine, malheureusement, ça dure longtemps, mais quand même, on se dit qu'on va plutôt aller un jour vers la fin. Donc tout ça va faire un petit peu moins de demandes. Donc ça, c'est un premier sujet sur le secteur. Après, ça, on revient, vous allez me dire que c'est toujours le même sujet sur les semi-conducteurs. Il fallait bien financer les achats sur les semis. Donc là, le marché s'est mis en mode on sur les semis et a vendu aussi des valeurs de défense. Je pense quand même, il y a eu aussi le miss de Rheinmetall qui est tellement gros dans les indices que ça a entraîné tout, mais c'est comme toutes les valeurs de défense ont suivi un peu ce schéma de baisse. Mmh. On revient effectivement, pour moi, à des niveaux de valorisation, puisqu'on a un PE 2027 de 22 fois pour une croissance des BPA sur le secteur, sur notre couverture, nous, à Odo BHF, de 23% sur les 5 prochaines années. Donc c'est quand même pas mal, c'est même meilleur marché que la tech. C'est plus, il y a tout autant de visibilité. C'est peut-être un petit peu moins glamour dans le sens où la tech, c'est le monde de demain, on ne veut pas rater la révolution qui est en route, et on a raison d'ailleurs. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, le secteur de la défense est revenu à des niveaux qui me paraissent justifier au moins d'être exposé en ligne et de commencer à revenir un petit peu dessus gentiment. Peut-être que ça réaccélérera paradoxalement quand on aura vraiment rouvert le détroit d'Hormuz dessus.
Bon, on va s'arrêter là. Thomas Zlowski, Odo BHF, merci d'avoir été très complet sur ces secteurs qui font effectivement l'actualité. On va maintenant regarder les grands horizons macroéconomiques avec Gilles Mouek d'AXA, c'est l'écho du monde.
Bonne journée.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Gilles Mouek, d'AXA, merci d'être avec nous cet après-midi. Un petit coup d'œil sur, alors déjà sur les statistiques qui étaient attendues, notamment l'inflation côté PCE américain. PCE, c'est les revenus et dépenses des ménages, donc c'est vraiment l'indicateur concret que surveille la Fed pour étalonner sa politique monétaire. On était à se dire, bon, plus 3,8%, globalement c'était ce qui était attendu. Plus 3,8% quand même, c'est... Enfin, on a confirmation que voilà, ça pique.
Ça pique, c'est beaucoup, et ça n'est pas dû qu'à l'effet direct, mécanique, de l'élévation des prix du carburant, parce qu'on a un indicateur PC sous-jacent, donc hors alimentaire, hors énergie, qui sort encore au-dessus de 3% en glissement annuel. Et quand on regarde des graphes sur les 6 derniers mois, ce qui est assez clair, c'est que on a toujours les effets retardés des tarifs de l'année dernière, avec une inflation dans le secteur des biens manufacturés qui reste quand même assez élevée. Et puis, on a le prix des services qui continue aussi à cavaler. Donc, ça donne vraiment de l'eau au moulin à la Fed, qui, contrairement à ce que voudrait peut-être toujours Kevin Warsh, ne souhaite absolument pas que la Fed baisse la garde et reprenne la baisse des taux. Parce qu'encore une fois, ce qui se passe sur l'inflation aux États-Unis n'est pas soluble simplement dans la réouverture du détroit d'Hormuz. Il y a quelque chose de plus profond.
Bon, ça, c'est quand même à retenir, hein, ce fait qu'il n'y a pas que l'effet guerre en Iran. Un petit coup d'œil sur les taux et l'échange, mais surtout sur les taux. On a quand même un 10 ans allemand qui s'est installé tranquillement sous les 3%, donc ça doit vous tranquilliser, théoriquement. Mais on a l'impression que la volatilité est un petit peu moins forte ces derniers jours et qu'on s'est installé sur un certain nombre de niveaux clés. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Oui, peut-être, mais ça reste quand même très corrélé au bruit qui nous vient soit de Washington, soit de Téhéran sur la réouverture possible du détroit d'Hormuz. Et ce qui se passe sur la partie longue de la courbe est très proche de ce qui se passe sur le pricing de marché, sur la trajectoire de la BCE et de la Fed. C'est-à-dire que on a commencé la semaine plutôt juste avant toutes ces rumeurs de cessez-le-feu prolongé. On avait 3 hausses de taux complètes pour la BCE pricées par le marché. Là, on oscille entre 2 et 3. Donc, pour moi, c'est quand même ça l'élément central. C'est-à-dire qu'on avait des attentes sur la BCE qui étaient quand même assez au quiche. On les a reprises un peu du fait de peut-être de meilleures nouvelles du côté du Golfe. Et ça se transmet heureusement assez bien sur la partie longue de la courbe. Je crois que c'est ça vraiment l'élément dominant.
Alors un dernier truc, Gilles, on entend des choses un petit peu folles et faramineuses du côté des grands argentiers. Tiens, on a le trésor français, c'était dans les experts ce matin avec Raphaël Legendre, ça m'a beaucoup intéressé. Le trésor français qui prévoit que la croissance moyenne française pourrait grimper de 8 points en cas d'adoption en masse du quantique. Il était question de vendre le quantique. Ça devient un enjeu national. Mais c'est vrai qu'on a des spécialistes là-dessus, mais voilà. De manière un petit peu plus générale, est-ce que ce storytelling permanent sur l'IA, sur la tech, est pas en train d'aveugler quand même les institutions, quitte à leur faire des erreurs? Parce que 8 points de croissance, enfin, c'est très expérimental, c'est très beau et ça doit être très efficace. Mais par là même, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de prendre des biais un petit peu spéciaux?
Ah, je ne suis pas sûr, parce que pour moi, ce qui compte, ce sont les prévisions à plus court terme, à l'horizon 2-3 ans, parce que c'est celles-là qui sont utilisées par le Trésor pour ses prévisions budgétaires. C'est celles-là qui déterminent vraiment l'orientation des politiques budgétaires, et pour l'instant, on n'a pas vu de contagion de ces hypothèses sur un impact très fort des gains technologiques sur ces prévisions court terme. Donc je ne pense pas qu'ils s'aveuglent. Hein. Il n'y a pas de calcul, de prise de risque ou de pari sur la tech. Ce dont j'ai l'impression, c'est que tout le monde est un peu à la recherche d'une belle histoire. Et c'est normal, parce que on a une situation conjoncturelle assez déprimée, on a de multiples raisons de stresser, et n'importe quel économiste bien formé va toujours considérer, lorsqu'on lui demande « Et alors, y a-t-il de bonnes nouvelles ?» La bonne nouvelle, c'est toujours la technologie. Aujourd'hui comme hier, vous êtes toujours obligé d'intégrer dans des scénarios à 5, 10, 15 ans, la possibilité qu'il y ait effectivement une innovation technologique forte avec des effets de déversement importants qui vont véritablement relancer la croissance. C'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement dans l'histoire. Donc ne pas en parler, c'est finalement se condamner à une lecture extrêmement triste et assez désespérante de l'état de l'économie, alors que voilà, historiquement, ces révolutions technologiques ont eu lieu, il n'y a pas de raison de penser que cette histoire-là se termine. Moi, je préfère qu'on regarde ces possibilités-là que l'ambiance générale d'il y a quelques années, où de quoi parlait-on ? On parlait de stagnation séculaire. Et c'était devenu absolument évident pour tout le monde dans le débat économique et dans le débat politique qu'on allait vers voilà, une économie extrêmement faible, extrêmement limitée, et que la vitesse d'innovation dans l'économie était en train de se réduire. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ? En tout cas, on ne sait pas si cette innovation technologique va effectivement avoir un effet d'entraînement énorme sur l'économie, mais de l'innovation technologique, il y en a. L'AI est là. L'AI est active et a des effets sur l'investissement des entreprises. Donc voilà, moi je préfère qu'on regarde quand même ces possibilités-là, même s'il ne faut pas les injecter tout de suite dans des prévisions qui auraient un impact sur les politiques éco.
Continuons à rêver un petit peu, effectivement. Merci infiniment Gilles Mouek du groupe AXA et on passe à Thème d'avenir.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et on va parler de nos small et mid-cap, de nos petites et moyennes capitalisations. On a vraiment le vent en poupe en ce moment, hein. Il n'y a pas à dire. Vincent Lessanne de Ports en Part, bonjour.
Bonjour.
Il y a une donne qui a vraiment changé, hein. C'est étonnant, les small et mid-cap françaises retrouvent vraiment de l'attrait, j'allais dire comme au bon vieux temps, mais après un réveil qu'on a attendu pendant des années, là il se passe des trucs, notamment grâce aux dynamiques d'IA, des dynamiques de défense, il y a vraiment des secteurs entiers qui sont en train de changer de dimension et c'est plutôt enthousiasmant.
Exactement, en fait c'est particulièrement impressionnant, ça, le point de départ il est... Il est vraiment, en fait, il date vraiment d'avril 25. Et depuis, en fait, malgré tous les, je dirais, tous les éléments qui sont plutôt de nature à ralentir cette classe d'actifs, je pense bien évidemment au contexte géopolitique, je pense à la hausse de l'énergie, à l'inflation, la perspective de remontée des taux. Tout ça, c'est quelque chose qui, normalement, est plutôt de nature à ralentir. Et en fait, pas du tout. Quand on regarde des éléments très concrets, en fait, on voit que l'indice encore cette année, l'indice mid and small surperforme largement les large caps. Hein, on se parle de 10% d'écart favorable donc à cette classe d'actifs. On voit également des volumes de transactions qui augmentent. Nous on le voit hein, en salle de marché, on exécute beaucoup plus de transactions que l'année dernière à pareille époque. Et puis autre élément concret, c'est la collecte en fait de ces fonds-là. Donc la collecte est redevenue positive depuis avril dernier en fait. Et même dans les périodes les plus tendues qu'on vient de connaître en fait et qu'on connaît toujours avec la situation au Moyen-Orient, on a une très légère décollecte en fait. Hein. Donc on a vraiment un secteur qui attire de plus en plus d'investisseurs, que ce soit investisseurs institutionnels, c'est ça dont on vient de parler, mais également des particuliers qui s'intéressent en fait à cette classe d'actifs.
Bon, et puis il y a une certaine forme de décote, bon, qui est un peu triste et qui a une petite source d'inquiétude hein, de la part des investisseurs, mais au contraire, ça peut être un argument supplémentaire, c'est-à-dire partons à la chasse aux bonnes affaires.
Oui, effectivement, en fait, malgré cette surperformance de 10% dont on parlait tout à l'heure sur les large caps, en fait, on a des perspectives qui sont plus importantes en termes de croissance, de bénéfices par action. Et quand on regarde effectivement les différents ratios, que ce soit le price earning ratio ou un ratio comme l'EV sur EBITDA ou sur EBIT, on voit en fait qu'il y a encore une décote sur cette classe d'actifs qui va de 10 à 30% par rapport au large cap. Donc effectivement toujours un foyer de croissance parce que ces sociétés en fait vont plus vite en fait que les large caps en termes de croissance du bénéfice par action.
Il nous reste une minute. Quelles sont les valeurs qui tirent vraiment le segment là en ce moment ? Bon, on parle beaucoup évidemment encore une fois de défense et de tech, d'intelligence artificielle.
Oui, c'est sûr qu'on a dans cette classe d'actifs des acteurs qui bénéficient de l'IA. Je pense notamment à tout ce qui est semi-conducteur. On a encore vu la Soitec aujourd'hui qui est l'une des plus fortes progressions de la journée après une publication hier attendue par le marché. Je pense à des acteurs toujours dans les semi-conducteurs comme 2CRSI, comme Calray, là, qui sont vraiment parmi les plus fortes croissances de cet indice CAC Mid Small depuis le début de l'année. Et puis, il y a aussi les valeurs de la défense. On a encore aujourd'hui un Excel qui progresse, dont le titre progresse à plus de 10%. Et depuis le début de l'année, des titres comme Parrot, comme Exosens, comme Eutelsat, là aussi tire leur épingle du jeu. Et puis le secteur santé également, comme l'année dernière, reste actif. Il y a des levées de fonds et les cours sont bien orientés. Donc ça, effectivement, c'est les trois segments qui sont particulièrement recherchés.
Exail hein, qui gagne aujourd'hui 11% encore à 144,30€. Exosens dans la défense aussi plus 8,2%, 68,65€. Et Medincell hein, plus 5%, 28,02€. Pas oublier la défense et puis la santé hein, qui marche toujours aussi bien. Vincent Lessane, directeur général adjoint de Portes en Parts, merci infiniment d'avoir été avec nous. Restez avec nous. Dans quelques minutes, on ouvre le conseil de famille de BFM Bourse et Sabrina Sadli de BFMBusiness.com qui vient nous rejoindre tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigauderie.
C'est le moment un peu intime où on partage ses convictions entre gens bien. Le conseil de famille de BFM Bourse s'ouvre. Bonjour Sabrina Sadki.
Bonjour Antoine, j'étais pas prête pour cette introduction.
On n'en est jamais prêt pour les intros dans cette rubrique. Ça sort comme ça peut. Sabrina,
oui,
Sadli,
Antoine.
BFMBusiness.com. On a un marché qui est finalement très très indécis. On était parti pour consolider les gains d'hier. Bon, on fait un petit peu le yo-yo depuis le début de la semaine. Là, on a l'air d'être un petit peu reparti, moins 0,06%. Le CAC est quasiment à l'équilibre. Le climat est mitigé du côté de Wall Street et on a encore la tech qui surperforme. Tiens d'ailleurs, plus 0,31% pour le Nasdaq, plus 0,32% pour l'Euronext Tech Leaders. Donc,
tiens.
Mais dites, moi, ce qui me plaît là depuis le début de l'émission et depuis une dizaine de jours, c'est que la tech européenne enfin est prise au sérieux.
Et ben enfin.
Soitec, ST Micro, tout ça marche très bien. Et encore une fois, on est peut-être en train de changer de dimension sur tous ces secteurs et ça fait du bien.
Ben oui, on le voit avec les résultats de Soitec, hein, l'accueil réservé aux résultats de Soitec hein, qui gagnait déjà avant la publication. On était à 565% depuis le début de l'année, largement devant le ST Micro qui est à 160%, un peu plus maintenant avec la hausse du jour. En tout cas, la tech européenne se porte quand même à charme aussi. Bon, pour le cas de Soitec, on revient de très très loin. J'ai regardé les cours au 31 décembre de l'année dernière, donc on était à 23 euros. Ouais. Et là, bah, on culmine des sommets, mais bon, on part quand même d'une entreprise qui avait vu son cours divisé par quasiment 4 depuis 2022. Donc voilà, là maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur, ça se consolide. Maintenant, il faut que sur certains territoires, comme l'automobile par exemple, se consolide, que ça reparte sur une très bonne dynamique. Mais en tout cas, pour Soitec, c'est surtout l'IA, la photonique, c'est tous ces points-là qui permettent d'avoir des relais de croissance pour Soitec.
Absolument. Et alors c'est ça, c'est comme Société Générale et son exposition aux banques de marché. Il n'en faut pas beaucoup au marché pour prendre des biais, se dire « Ah ben non, cette valeur, j'y vais pas parce qu'ils sont trop exposés. » En voyant pas que les dernières années, ça a complètement changé, etc. Il y a une sorte de wording qui colle à la peau de certains titres et c'est vrai que Soitec, on a pâti pendant des années.
C'est le perdant de l'automobile et le gagnant de l'IA. C'est un peu ça maintenant, et des smartphones aussi. Et maintenant, c'est vraiment la thématique IA qui porte Soitec. Et on voit sur les autres valeurs, que ça soit STMicro, Soitec, sur le SBF 120 ou des plus petites, comme l'a dit Vincent Lessane juste avant nous.
Exactement. Romain Daubry, Bourse Direct, vous êtes avec nous. Bonjour Romain, merci d'être là.
Bonjour Antoine.
Un CAC 40 qui ne sait pas trop où il va. Là, pour l'instant, on est toujours en baisse, hein, moins 0,13%, 8196 points. On a sorti une petite tête de l'eau, on était en périscopique là, il y a encore quelques minutes, mais on a un marché qui manque un petit peu de catalyseur. En tout cas, bon, c'est 8100 points. Enfin, vous allez nous dire le niveau technique précis, mais on sent un niveau d'oscillation pour l'instant sur le CAC 40 qui semble à peu près confortable, on va dire.
Oui, ce sont les gaps du début de semaine qu'on aurait dû préserver. Hein. Alors, on les a comblés pour l'instant et préservés, mais c'est vrai qu'il y a des petits signes de spéculation dans ce marché, toujours. C'est-à-dire que c'est du mieux, on accumule en partie haute, mais on n'arrive pas à confirmer, on n'arrive pas à accélérer. On le voit du côté des marchés dérivés sur le futur CAC 40, sur le futur Eurostoxx. Les mouvements de hausse se font avec peu de soutien à chaque fois, et puis on gomme assez rapidement les petites accélérations haussières. Donc on a pour l'instant des opérateurs qui sont plutôt optimistes, si on regarde les choses graphiquement, mais qui ne se décident pas pas, on n'arrive pas à franchir les niveaux. Et puis en termes d'intérêt, ça reste modeste. Donc on est en attente, situation d'attente. Donc on vient d'avoir encore une nouvelle annonce d'un probable accord, ou en tout cas d'un cessez-le-feu d'une soixantaine de jours. Ça a permis d'accélérer à la hausse à nouveau. Mais on voit que c'est plutôt assez mitigé dans l'immédiat. Donc on est entre deux eaux. Sur l'Eurostoxx, c'est toujours 6073 qu'il faut déborder. On a réussi à préserver le pied du gap qu'on avait ouvert en début de semaine à 6036. Sur l'indice CAC 40, la zone de prix qu'on a évoquée ensemble hier déjà, c'était 8159 bornes basses. On l'a testé, mais on l'a réintégré. Et puis, le niveau d'accélération aussi, c'est 8259. Donc, un range de 100 points pour l'indice parisien, dont la sortie nous en dira plus. On s'est fait un petit peu peur, mais pour l'instant, on réintègre encore une fois pas beaucoup de momentum, une accumulation en partie haute. Si on déborde ces niveaux, on pourrait accélérer un peu.
Un petit coup d'œil sur les niveaux techniques. Qu'est-ce que vous surveillez sur les principaux indices ?
Alors, sur le CAC 40, 8159 en bas, 8259 en haut. Si on accélère, c'est 8357. Et là, on pourrait enfin aller rallier des sommets, 8624 sur l'indice parisien. Ce serait du mieux. Niveau d'alerte, c'est 8082 à Paris. Il faut vraiment préserver ce niveau-là. Ce serait de l'idéal, 6073 sur l'Eurostoxx, c'est le niveau pivot, tant qu'on est au-dessus, c'est du mieux. Si on regarde le S&P, on est dans un grand range, 7455 en bas, 7575 en borne haute. On est entre les deux pour l'instant, il n'y a pas d'invalidation dans la hausse, même si on voit qu'on est un petit peu topiche, mais on n'arrive pas à franchement baisser, hein. On est en train de former un nouveau plus haut historique en séance, encore une fois, sur le S&P. Attention, toujours dans ce contexte où on a beaucoup anticipé de choses, est-ce que les opérateurs ne soient pas tentés de vendre la nouvelle si l'accord était vraiment définitivement signé entre l'Iran et les États-Unis ?
J'aimerais bien lire cet accord, parce que ça doit y avoir 180 versions, ça doit être une catastrophe. Bon, bref, il y a un secteur, en tout cas, qui se réveille bien, ben justement avec ses considérations géopolitiques, celui de la défense. Et il y a un titre qui est un petit peu l'exemple symptomatique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir des gros investissements, etc. On en a bien profité. Et puis, au bout d'un moment, le potentiel s'est complètement essoufflé. Et ça repart autour de qui ? Rheinmetall, évidemment.
Oui, tout à fait. Le secteur est en train de se réveiller de façon assez uniforme. Alors, on a de grosses accélérations au tiers sur certains titres aux États-Unis aujourd'hui. Et puis, en Europe aussi. C'est le cas pour Leonardo, mais le potentiel aussi le plus intéressant, à mon sens, c'est Rheinmetall. Effectivement, le titre qui avait formé un plus haut en septembre 2025 à 1984, eh bien, avait baissé jusqu'à la semaine du 11 mai dernier à un plus bas à 1099. Il se réveille, on a une structure de retournement haussière qui se met en place, elle offre un potentiel intéressant, le titre vaut 1288 à l'instant et la cible donnée par le rebond se situe entre 1645 et 1650, donc il y a manifestement quelque chose qui se met en place sur ce secteur d'une façon générale, si les opérateurs veulent le travailler de façon diversifiée. On avait créé, à l'époque où le secteur de la défense avait eu le vent en poupe des ETF, ils avaient un peu sous-performé depuis, comme c'est souvent le cas, mais là, ça peut être intéressant de les regarder à nouveau. On a un ETF dont le code est GUARD ou un autre dont le code est DEFS. Donc, si vous voulez regarder ce secteur d'une façon globale et diversifiée, ça peut être un outil de surperformance pour l'instant. En tout cas, c'est le cas depuis quelques séances.
Merci Romain Daubry. Bourse Direct, on vous retrouve en fin d'émission pour refaire la séance et nous rappeler les principales considérations techniques du jour. Tiens, un point pépite.
Allez, c'est
Sabrina,
parti.
Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est alléchant sur les marchés là en ce moment ?
Ouais, alléchant, c'est un grand mot, mais en tout cas, ce qui est intéressant.
C'est l'été.
D'accord. Alors, faisons rêver nos chers auditeurs et téléspectateurs. Oui. Alors aujourd'hui, vous parlez de Valbiotis qui gagne 10%. Alors je pense que c'est la note de TPI Cap qui a été consacrée à la valeur, qui est pas étrangère à ce rebond. Alors en fait, le bureau d'études, en fait, il a estimé que Valbiotis, c'est un spécialiste des compléments alimentaires 100% naturels. Et ça, c'est hyper important pour la suite. Alors eux, ils sont spécialisés dans les compléments alimentaires contre le cholestérol, les effets indésirables de la ménopause ou bien pour les articulations. Enfin, tout ça, c'est vendu en Europe depuis une bonne année maintenant. Et maintenant, ils essayent d'étendre leur maillage géographique en Chine et en Asie. Et donc, a priori, ils pourraient profiter d'un petit durcissement réglementaire sur un composé contre tout ce qui est pour...
Lui
pour, oui. Alors, non, je disais pour le...
Enfin, un composé. Quoi.
Non, un composé pour tout ce qui est contre l'hypertension. Et d'accord, donc, okay. Et voilà, et donc en fait, bah, ce complément un peu controversé, eh bien, Valbiotis ne le commercialise pas. Donc eux, ils pourraient profiter en fait de ce durcissement potentiel durcissement réglementaire sur cette levure de riz rouge pour lutter contre le taux de cholestérol dans le sang.
Épique.
Voilà, c'est un peu ça l'idée.
Non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, c'est un secteur qui est très couru, très convoité, qui sort un petit peu justement de tout ce qui est Big Pharma et considération autour des principes actifs. Donc, effectivement, c'est un marché qui est intéressant. Tiens, on va se consacrer à la question du jour, qui est introduite elle-même par un tweet que vous allez lire. C'était un tweet qui est sorti par un abonné sur X américain. Qui nous disait quoi ? Qui nous disait hier tout simplement que, en gros, l'Europe était foutue, puisque les États-Unis ont ChatGPT, Grok, Claude, Gemini, Llama, Copilot, que la Chine a DeepSeek, Qwen, Ernie, GLM, Kimi, Minimax. Et l'Europe ? Un petit air arrogant, là. Bon, je me suis permis de lui répondre hier soir, juste à SML, sans quoi aucune de ces trucs-là ne fonctionnerait. Et de deux, justement, question intéressante à vous poser, à vous, auditeurs et téléspectateurs, qu'est-ce qui nous reste en Europe ? Parce qu'on a quand même des très belles valeurs. On a ASML, donc le fabricant de machines à graver les semi-conducteurs. On a Soitec, le spécialiste des matériaux les plus avancés pour les semi-conducteurs. On a ST Micro, qui est un acteur diversifié entre secteur automobile, industrie, également IA. Ou est-ce qu'il nous reste juste nos yeux pour pleurer car nous sommes des euros larmichettes permanents ? Alors ?
Oui, alors moi je ne suis pas du tout dans le scepticisme, bien au contraire, je suis plutôt optimiste et je trouve qu'on a une superbe pépite européenne qui s'appelle ASML, sans qui le reste de la tech ne fonctionnerait pas, puisque c'est quand même 80% des parts de marché dans la lithographie. En fait, c'est un procédé clé pour fabriquer les semi-conducteurs. Et sans ASML, il n'y a pas de Nvidia, il n'y a pas tout l'écosystème qui en ce moment en train d'exploser en bourse. Et donc, je dirais ASML qui pèse 630 milliards de dollars. Donc, première capitalisation européenne. Donc, ASML sans hésiter.
C'est ce qu'on se disait avec Guillaume hier et puis ses spécialistes qui étaient là. Qui disaient, ah oui, mais 600 milliards de dollars, qu'est-ce que c'est par rapport à... Ouais, mais est-ce que la vocation d'ASML, c'est d'avoir la capitalisation boursière la plus explosive du monde ?
Non.
Non, peut-être pas franchement.
C'est que ça tourne, tout simplement.
Voilà, tout simplement, effectivement. Et puis, on a les Soitec, on a les ST Micro, mais on en a plein d'autres. On a aussi les Calray, on a les... Et alors, concernant ASML, on avait Thomas Lovoski de Dodo BHF, là, tout à l'heure, qui était avec nous, qui nous disait le quasi-monopole d'ASML sur la lithographie sur semi-conducteurs, non seulement il est réel maintenant, mais il est réel pour un temps assez confortable. D'ici qu'il y a des acteurs chinois ou américains qui puissent utiliser les mêmes procédés avec le même succès et avec les mêmes attentes, on a le temps de voir venir. Maintenant, on va voir vos réponses, évidemment. Alors, qu'est-ce qui nous reste à nous en Europe ? Ouais, superstar. 52% pour ASML.
Moi, c'est 32% nos yeux pour pleurer qui m'inquiète un peu.
Vous savez quoi ? Je l'ai mise à dessein, cette...
J'imagine.
Cette réponse, pourquoi ? Parce que on est rempli là ici d'euros pleurnichards qui disent mais non mais on est rien de toute manière et qui badent le Nasdaq et qui badent Google et qui badent Anthropique dont la valorisation boursière peut varier du simple au double suivant les semaines et suivant les évaluations via tokenisation sur la blockchain Solana. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Oh, on a du solide, on a des écosystèmes, on a tout ce qu'il faut. On n'a certes pas les capitalisations monstrueuses, glamour, qui font briller les yeux. On n'a pas le blouson en cuir de Jensen Huang, d'accord. Mais voilà, on a juste ASML. C'est un monopole de fait. C'est un acteur super fiable. Et on a des Soitec, des ST Micro, qui continuent à changer de dimension. On a les Calray, on a les Rebirth, dont vous nous avez souvent parlé, avec des machines absolument fascinantes. Donc voilà. Honneur à notre industrie des semi-conducteurs qui se porte bien et qui est une très longue histoire d'ailleurs de coopération autour de Grenoble, entre les écosystèmes français, italiens, etc. C'est aussi une histoire européenne.
Et Soitec est là-bas.
Et Soitec, bien entendu, est un groupe grenoblois.
Grenoblois, tout à fait.
Effectivement. On va sortir complètement des semi-conducteurs. Oui. On va aller dans un secteur beaucoup plus prosaïque, mais alors Enfin, on s'en est parlé ce matin, ça nous a complètement mis par terre. LDC,
oui.
Ouais, la volaille, les salades, notre repas vite fait de midi. On aurait pu se dire que c'était le contexte sans doute le plus catastrophique pour faire des affaires en ce moment dans ce secteur. Et on le voit d'ailleurs, il y a d'autres acteurs qui en souffrent terriblement, des disruptions, des Trois d'Hormuz, etc. Avec la chute de la consommation d'un certain nombre de viandes, les habitudes changent. Ben non, LDC vend de la volaille, LDC vend de la salade, bien mieux qu'avant et avec des dynamiques incroyables.
Ben oui, vous l'avez évoqué, vous avez soulevé le point en fait, Antoine. Les dynamiques changent et les habitudes de consommation changent. Mmh. Et pour qui ? Pourquoi ? Pour le poulet, les œufs. Mmh. C'est vrai que la consommation de viande a vraiment drastiquement baissé. Celle au profit de quoi ? De la viande de poulet, enfin de volaille en général et des œufs. Alors là, les résultats...
Les questions d'inflation aussi, parce
bien
que...
Sûr. Ouais. Ah ben bien sûr, la viande maintenant, c'est quand même un luxe hein, pour c'est une sûr. Très bonne viande. Alors les résultats du coup de LDC sont plutôt bons, même largement supérieurs aux attentes. Hein, le groupe derrière Loué... Le Gaulois, Marie,
tout ça, c'est
Pierre Martinet depuis peu, en fait,
bien
c'est
sûr,
LDC, ouais. C'est la galaxie LDC. Et donc, le groupe a explosé littéralement les attentes en matière de rentabilité grâce à une bonne tenue de la consommation pour la viande de volaille, mais aussi en Europe et aussi à la hausse des prix de vente. Alors, le groupe, il a vendu des produits beaucoup plus chers et plus rentables, notamment pendant la période des fêtes. Hein, c'est sûr qu'on se fait un peu plus plaisir
le gros
à ce
chaton,
moment, voilà, exactement, à ce moment de l'année. Et la génération de cash aussi, elle a été très appréciée du marché, elle a été supérieure aux attentes. Alors, pour rappel, le groupe avait dépassé les 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un objectif qu'il avait dépassé avec un an d'avance, hein, puisqu'il avait donné les lignes directrices de ce précédent plan, hein, qui était en 2022. Et là, avec un an d'avance, donc ils ont atteint donc les 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
C'est dommage qu'on ne les interroge pas. Moi, je m'interroge aussi sur la capacité qu'ont ces groupes à bénéficier de l'attrait du buzz des fameux croustis machins qui éclosent un petit peu partout dans nos villes. Mais il y a un tel buzz autour de ces enseignes, il y a un tel succès d'ailleurs.
Je rebondis là-dessus.
C'est pas cher et bon. LDC a des points à marquer dedans et on a sans doute marqué ces derniers mois.
Alors j'ai une question justement, vous évoquez le point là.
Ouais.
Combien de c'est la viande la plus consommée en France
le poulet.
L'année dernière et combien un Français consomme en moyenne de viande de volaille ?
Oh là là, je serais incapable de vous dire. Je sais pas.
Bon, un peu plus de 31 kilos et 25 kilos rien que pour le poulet.
Waouh !
Voilà, c'était la petite statistique du...
Un gros poulet, ça, 25 kilos.
C'est un beau poulet.
Oui, d'accord. Bon, le groupe a aussi livré ses perspectives pour cette année. Puis il y a 5 ans. Ça va toujours aussi bien.
Ça va bien, mais le groupe, en tout cas, à court terme, le groupe, il n'élude pas les implications liées au détroit d'Hormuz parce que pour les emballages, ça coûte cher, hein, l'inflation des prix des carburants. Pour les emballages, ça coûte un peu plus cher. Mais en tout cas, pour l'année, pour, donc le LDC a donné son plan à 2031, jusqu'à février 2031. Et donc, il vise 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un résultat opérationnel courant de 550 millions d'euros. Et le groupe, par exemple, à cette échéance, 2031, il vise un doublement, vous savez quoi, de son chiffre d'affaires à l'international.
Alors, c'est vrai qu'il était... ça doit être une problématique, d'ailleurs, parce qu'il était très exposé aux pays du Moyen-Orient et aux Émirats, notamment pendant un certain temps, pour la fourniture de poulet. Donc, ça pourrait être un des catalyseurs, une fois que tout sera bien redébouclé et que le climat géopolitique se sera apaisé. Mais voilà, LDC, c'est aujourd'hui toutes ces bonnes nouvelles, plus 5,7%, ça gagne 32% depuis le 1er janvier. Puis voilà, cours doublé sur 3 ans, c'est une valeur... C'est une valeur qui marche très très bien, avec pas un rendement mirifique, hein, 1,58%, mais on a de la croissance. Tiens, le rendement.
Ah bah tiens.
Ben oui, le truc que je dis toujours, moi j'aime les valeurs de rendement. Bon, on va en parler, puisque évidemment, BFM Bourse, c'est l'émission où on tord le cou, on met des grandes baffes aux idées reçues. Vous savez ?
Oui, je sais.
Et il y a une rubrique qui s'appelle le Bullshit.
Ah bon ?
Oui, voilà.
Ah, je découvre.
Où justement, on va aller à l'encontre des clichés de marché, et en particulier un qui me concerne, puisque j'arrête pas d'en parler. Oui, quand on choisit une valeur, il faut obligatoirement choisir une valeur de rendement.
Je plains les oreilles de vos chers auditeurs.
Et nous sommes avec Julien Letestu de Jaxt Finance qui va nous dire, bullshit.
Bonjour à vous, bonjour Antoine.
Julien le déçu, il a tout pris en même temps. Il a décroché le téléphone, il y a eu l'orage. Bon, c'était fabuleux. Mais oui, vous nous dites... Ouais, bon, c'est le rendement, le coupon, le dividende, c'est bien, ça fidélise l'actionnaire, mais c'est pas ça qui doit déterminer fondamentalement le choix d'une action ou d'un truc qui vous plaît.
Bien sûr, en tout cas, moi, je parle ici du haut rendement, puisque le haut rendement peut dire plein de choses à la fois, et souvent, il y a plusieurs pièges à éviter, notamment avec ces actions de haut rendement, comme vous appelez de rendement. Notamment un cours qui peut s'être lourdement dégradé récemment, et vous savez que le rendement est calculé sur le dividende par action face au cours de l'action. Donc, je prends l'exemple de Novo Nordisk, par exemple, qui affiche un rendement de 5 à 6 %. En réalité, au sommet, on était plus autour de 2. Mais ça peut aussi dire un gros rendement, une entreprise qui a besoin d'attirer des actionnaires et qui se sent un petit peu en difficulté, donc qui continue à l'augmenter, qui continue à distribuer un maximum de cash et qui, au final, ne pourra pas continuer ce rendement. Une autre possibilité aussi, c'est une très forte distribution qu'on peut voir dans d'autres groupes qui vont potentiellement pouvoir, enfin, même réduire la croissance mécaniquement, puisque quand on distribue tout son cash, ben, au final, il reste plus rien dans la machine. Et c'est peut-être pas la manière de fonctionner. En tout cas, faut pas tomber dans tous ces pièges.
Bon, cela dit, il y a des cas de figure. Le rendement, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on est sur des problématiques de croissance du rendement via le dividende, via le rendement, c'est un certain nombre de paramètres. Mais on voit, par exemple, on peut choisir une entreprise qui a un rendement relativement faible parce qu'elle a plus des qualités de dynamique de croissance. Et puis, elle peut provoquer des grands rendements à certains moments. Comment la mécanique se fait ? Expliquez-nous.
C'est ça, et c'est surtout là où je voulais en venir. Pour les personnes qui ont un horizon de temps vraiment long, il y a un rendement qui est très intéressant. C'est celui qu'on va appeler le rendement sur coût. Mécaniquement, ce rendement, quand on va l'acheter au tout début, on peut prendre l'exemple, l'action chouchou des Français, Air Liquide, qui est un rendement qui est croissant, c'est-à-dire qui va augmenter chaque année, avec une distribution qui n'est pas abusive et qui est franchement gérable, et surtout qui peut être augmentée chaque année, même dans les années un petit peu plus compliquées. Et justement, ce rendement sur coût qui va venir s'appliquer, c'est le rendement sur le coût d'achat. Donc, sur plusieurs années, par exemple sur Air Liquide, quand vous avez 7% d'augmentation en moyenne par an du dividende sur les 30 dernières années, eh bien, ces 7% par an, en réalité, ça double votre rendement sur coût en à peine 10 ans. Donc, plus l'horizon de temps est efficace, plus l'horizon de temps est long, plus on peut augmenter justement ce rendement sur coût qui va venir potentiellement booster des actions de croissance et on a des très bons élèves en la matière.
Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce qui est important, c'est pas le rendement à un instant T, c'est l'historique de redistribution, si on regarde sur la longueur.
C'est ça. L'historique, non seulement, mais aussi la croissance véritablement de ce rendement qui va donner sur le coût d'achat quelque chose de très intéressant. Par exemple, si on prend les dividendes aristocrates, je sais bien que vous connaissez, chers auditeurs et cher Antoine et chère Sabrina, mais ces dividendes aristocrates, qui ont même des ETF maintenant qui sont baqués dessus, sont des entreprises du coup qui augmentent leur rendement chaque année depuis 60 ans pour des bons clients comme Johnson & Johnson, Pepsi, etc. et qui sont donc bien réputées pour ça et qui permettent, en étant des actions de père de famille, de profiter d'un rendement, mais de profiter aussi d'une croissance certes un petit peu plus légère pour les dividendes aristocrates, mais certains acteurs, encore une fois, viennent accélérer tout ça avec un autre mécanisme et surtout ont une grosse croissance de ce dividende-là.
Alors Julien, vous avez parlé d'un autre mécanisme, alors c'est lequel qui permet de maximiser le retour aux actionnaires sans pour autant pénaliser, peser sur la structure de l'entreprise?
Oui, c'est le mécanisme des rachats d'actions. J'appelle ça des actions carnivores, et on appelle ça globalement des actions carnivores, c'est-à-dire des actions qui vont venir manger leurs propres actions. C'est-à-dire que mécaniquement, le prix de l'action va monter, puisqu'on sait que le prix de l'action est calculé via la capitalisation boursière divisée par le nombre d'actions en circulation. Mais s'il y a moins d'actions en circulation, mécaniquement, le prix va monter. Et il y a des actions comme Booking, par exemple, qui dans les 5 à 10 dernières années ont racheté jusqu'à 15% de leurs actions au flottant d'il y a 15 ans. Maintenant, il y en a qui en rachètent jusqu'à 1, 2% en plus de verser des dividendes. Et ça crée, en plus d'un rendement sur coût qui va progresser, un deuxième effet qui se coule avec justement des actions qui vont disparaître entre guillemets et mécaniquement ne plus être échangeables et donc monter le cours de l'action, et ça c'est encore mieux.
Julien Le Testu, il nous reste une minute. Du coup, comment on doit s'y prendre sur le terrain pour appliquer cette stratégie?
Alors, il faut être très rigoureux au niveau de la sélection. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui peuvent se permettre de chaque année augmenter leur rendement et aussi de pouvoir acheter leurs actions. Alors, le rachat d'actions, c'est vraiment du bonus, mais vraiment pour le dividende croissance, on se base sur ça. Le but étant de chercher des entreprises qui ont un historique, un dividende qui croît depuis plusieurs années, un dividende qui a une croissance au-delà de 5, 6, 7% par an, ça devient très intéressant, et surtout des entreprises qui n'ont pas une distribution de free cash flow énormissime, puisque le cash, il faut en générer pour pouvoir assumer cette stratégie derrière. Donc, pas de cash, pas d'augmentation de dividendes, aussi simple que ça. Donc, il faut chercher des entreprises vraiment qui génèrent beaucoup d'argent et qui ont un historique, et le rachat d'actions, ça vient en bonus, c'est la cerise sur le gâteau.
Julien Le Testu, alias Jax Finance, merci d'avoir été avec nous. C'était très clair sur cette problématique des valeurs du rendement. On termine par le chiffre du jour. Yannick Lopez de Fininvest IM, bonjour.
Bonjour.
Alors, 2,55%, il s'agit évidemment de politique monétaire. Qu'est-ce que c'est ce chiffre, Yannick ?
Oui, alors ben déjà, on va le remettre à jour. On va dire 2,50, même à l'heure où on se parle, parce qu'il y a eu un petit peu d'informations peut-être du côté de l'Iran, donc ça a fait bouger les taux.
Il y a eu des soldes, oui.
En fait, c'est quoi Oui, c'est ça, exactement. En fait, ça, ce sont les... Selon les anticipations du marché, ça correspond au taux monétaire que l'on aura dans un an, pendant un an. Ce qu'on appelle dans notre jargon le taux un an, dans un an. Pourquoi c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, de regarder ça? C'est parce que, en fait, au-delà du bruit court terme sur les anticipations de politique monétaire à juin, etc., quand on regarde le taux un an dans un an, ça nous permet d'estimer, de voir la zone d'atterrissage qu'anticipe le marché sur les taux de la BCE. Et donc, ça permet aussi de voir, au final, quelle est l'anticipation globale de hausse des taux qu'ont les marchés dans ce cycle. Aujourd'hui, le taux monétaire, il est, à l'heure où on se parle, 1,93%. Donc, si je vous dis que le taux un an dans un an est à 2,50, ça veut dire que le marché anticipe que la BCE va procéder à un resserrement monétaire de l'ordre d'environ 0,5%. Avant d'observer un plateau. C'est aussi ce que nous, on appelle, d'une certaine manière, le taux terminal. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on aime bien regarder, encore une fois, au-delà du bruit très court terme.
Alors, vu le contexte sur le pétrole, la hausse des taux qui est attendue, enfin la progression d'inflation, ça rend la dynamique inéluctable pour la BCE.
Faut quand même avoir en tête que cette mesure là dont on parle, le taux un an dans un an, il a été très fluctuant depuis début mars, depuis le début de la guerre. En gros, il a oscillé avec des grands coups de volant d'ailleurs entre 2,30, 2,35 au plus bas et 2,80, 2,85. Donc, vous voyez, ça veut dire que les estimations de politique monétaire ont été très changeantes et évidemment. Directement corrélé avec les prix du pétrole, vous avez raison. À court terme, ce qui semble désormais très probable, c'est que la BCE va procéder à une hausse de 25 centimes, 0,25% lors de sa prochaine réunion qui va se tenir mi-mars. C'est quasi done deal parce que vous avez même les membres les plus centristes qui ont évoqué là ces derniers jours le dérapage du contexte économique vers leur scénario adverse et donc la nécessité d'agir sur les taux. On a même eu une membre très influente auprès du Conseil des gouverneurs, l'Allemande Madame Schnabel, qui dit voir plusieurs indicateurs tendant à penser à une contagion imminente de l'inflation de l'énergie, donc elle est en très forte hausse évidemment, vers l'inflation cœur, et ça les stresse. Mais en même temps, elle a expliqué que la situation actuelle, c'est vraiment un gros dilemme pour les banques centrales. Parce que, en fait, ce qu'on a là, c'est un choc, comme on dit, de l'offre. C'est-à-dire pénurie d'hydrocarbures, pénurie d'engrais, pénurie de choses comme ça. Donc, c'est un choc d'offre. Et du coup, augmenter les taux pour contrer l'inflation des prix qui provient justement de ce choc d'offre risque d'exacerber derrière l'impact négatif de ce choc sur l'économie. Donc c'est un gros dilemme. Est-ce que je dois monter les taux pour contrer l'inflation? Mais et en même temps, si je les monte, j'appuie encore plus sur le risque récessif. Et le numéro 2 de la BCE, d'ailleurs hier, a dit exactement la même chose en disant qu'il insiste sur l'impact négatif du choc qu'on est en train de vivre sur la croissance. Donc du coup, le chemin pour juin, il est tracé. priori. Mais au-delà, la volatilité des taux, ça va continuer.
Yannick Lopez, OFI Invest AM, merci d'avoir été avec nous pour commenter donc ces fluctuations monétaires et encore une fois les taux. C'est la clé de tout en ce moment. Restez avec nous dans quelques instants. BFM Bourse revient et on ouvre le club. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.